pour une nouvelle saison du Ciel du Mois en novembre 2023. Salut Stéphane.
Salut Victor.
Passez un bon été.
Magnifique.
Que fait un astronome pendant les courtes nuits d'été peu propices à l'observation? Il va dans l'hémisphère sud où c'est la nuit, enfin où c'est l'hiver, avec des longues nuits.
Ouais, alors c'est loin quand même l'hémisphère sud depuis ici, hein, donc non, mais plutôt à la maison, profiter de la chaleur, de profiter de la piscine, et puis comme tout le monde, hein, finalement, et puis bouquiner des livres d'astro, effectivement, préparer la saison d'hiver.
Donc il y a pas que toujours la tête dans les étoiles.
Non, effectivement.
C'est aussi terre à terre.
Absolument.
Donc c'est parti donc pour cette nouvelle saison. La première question traditionnelle, la lune en novembre qui va grandir du 13 au 27.
Eh oui, donc nouvelle lune le 13.
Donc lune noire, pas de lune.
Exactement, et pleine lune le 27 du mois.
Pour les insomniaques.
Exactement, donc pas très adapté d'observer le ciel profond en fin de mois en fait.
Bon, la météo en novembre est jamais géniale hein, comme ces jours, c'est un peu frustrant aussi.
Oui, alors effectivement, quand on veut programmer des soirées d'observation, eh ben, on est malheureusement souvent déçu. Il faudrait aller en Arizona, dans le désert, on est aux États-Unis. Là, on a pratiquement 320 ou 330 jours de nuit, pardon, d'observables au télescope. Ou bien alors aller au Chili, à la CIA. Là, vous avez quasiment 350 jours par année où on peut observer. En Suisse, on est plutôt autour des 150.
Bon, en Arizona et au Chili, c'est un petit peu plus aride qu'en Suisse.
Un petit peu plus.
D'ailleurs, au Chili, il y a un James Bond qui a été enregistré. Hein.
Oui, effectivement, ouais, c'est vrai.
comment on peut expliquer simplement ces phases-là? Pourquoi la Lune, elle croît et elle décroît?
Oui, alors simplement, bah, la Lune, elle tourne autour de la Terre. Et donc, quand ce phénomène se produit, qui dure, en fait, une phase lunaire, c'est environ 28 jours, hein, eh bien, il y a des moments où elle se trouve à l'opposé du Soleil par rapport à nous. Donc là, bah, on voit la pleine Lune, il y a tous les rayons du Soleil qui éclairent la face
soleil,
qu'on voit bien.
Donc la Terre et la Lune est derrière nous si on regarde le Soleil.
Exactement. Et puis, quand elle se trouve de l'autre côté, bah, la Lune, elle est éclairée par de l'autre côté. Donc, on voit que la face cachée, en fait.
Donc, un phénomène avec lequel on vit, puis qui n'est pas facile toujours à comprendre et à expliquer.
Non, effectivement, là, pour bien comprendre ça, il faut vraiment faire un petit schéma. On prend une ampoule, c'est le soleil, la Terre, c'est son point, et puis on met une petite bille, et puis on regarde ce qui se passe.
À vos bricolages à la maison, avec un espèce de mini planétarium.
Exactement.
La Terre et puis la Lune. Au niveau des planètes, on a quand même des phénomènes à ne pas manquer ce mois. Tout d'abord, il y a un rendez-vous entre Vénus et la Lune le 9 novembre.
Ouais, effectivement, le 9 novembre, Vénus va être toute proche de la Lune. Elle va même, en fait, passer de l'autre côté. Donc, il y aura une occultation de Vénus par la Lune durant la journée, en fait. Et effectivement, ça se passera entre 11h et midi. Donc, le Soleil sera également présent. Donc, la Lune est quand même visible, hein, la journée. Je pense que les auditeurs ont déjà remarqué qu'on pouvait assez facilement voir la Lune en même temps que le Soleil dans le ciel. Et ben voilà, c'est ce qui va se passer. Ça se passera au sud-ouest. On aura cette occultation de Vénus. Donc, Vénus sera visible et tout d'un coup, elle ne sera plus visible pendant une heure durant la matinée.
Donc elle passe derrière la Lune.
Exactement.
Visible, j'ai toujours pensé que les planètes étaient invisibles la journée.
Alors, les planètes sont difficilement visibles la journée, mais elles ne sont pas invisibles. D'ailleurs, si vous avez un très bon télescope, vous pouvez pointer Jupiter, Saturne, Mercure durant la journée. Et vous voyez, alors, le fond de ciel sera bleu et pas noir. Donc c'est pour ça, c'est le contraste qui fait que c'est un peu plus difficile à observer, mais c'est tout à fait possible. Vénus, notamment Vénus, puisque c'est quand même un objet très très brillant, donc la journée, on arrive à voir avec des jumelles par exemple.
Donc c'est une éclipse de Vénus.
Exactement, par la Lune. Ouais.
Par la Lune. Il y a quand même, enfin, on a l'impression que ces deux éléments, enfin ces deux astres, enfin c'est la Lune et puis Vénus sont proches, mais en fait il y a beaucoup beaucoup de distance. Hein. La Lune 400 000 kilomètres et puis Vénus sera autour des 120 millions de kilomètres.
Hein. Oui, effectivement, c'est toute la problématique des distances en astronomie. Quand on a deux étoiles l'une à côté de l'autre, de même brillance, on peut pas savoir si c'est deux qui sont à même distance exactement avec la même brillance, ou bien si c'est une qui est très très lointaine mais encore beaucoup plus brillante et puis une proche qui est peu brillante. Ça, on peut pas le savoir. C'est toute la problématique de la détermination des distances en astronomie qui est une science fondamentale.
Donc on sera le 9 novembre, c'est avant la lune noire du 13, on l'a dit avant. Donc la lune sera avec un croissant de lumière sur la gauche.
Oui,
en forme de C.
En forme de C.
La lune aimanteuse, hein.
Effectivement, la lune aimanteuse, quand on voit un C, c'est qu'en fait, elle est décroissante. Et quand on voit un D, en fait, elle est croissante. C'est d'où cette expression, la lune menteuse.
Menteuse. Saturne a été la star pendant tout cet été, pour ceux qui l'ont vu pendant la nuit. C'est aussi la star encore en novembre, avec un rapprochement avec la lune le 20 novembre.
Oui, le 20 novembre avec Saturne, donc on la verra très bien, elle sera tout proche de la Lune, une espèce de couleur un peu orange, jaunâtre comme ça, donc aux alentours de 20h.
Oui, et puis donc en fait simplement si vous voyez donc le 20 novembre la Lune et puis un objet brillant à côté, c'est Saturne.
C'est Saturne, c'est un bon moyen pour la déterminer sa position.
On voit les anneaux à l'œil nu ?
Non, pas du tout. Alors là, il faut
des jumelles.
Jumelles difficilement, c'est un petit télescope quand même.
On est donc dans la constellation du Verseau, Aquarius.
Exactement.
Verseau qui veut dire porteur d'eau.
Oui, et c'est ça.
On a fait la recherche avant, c'est pour ça qu'on peut le dire. Mais... la Lune montre aussi Jupiter avec un rapprochement un petit peu plus tard, donc le 25 novembre. Aussi oui. Une manière de voir Jupiter, donc il ne faudra pas se tromper entre le 20 et le 25 novembre. Une fois c'est Jupiter, une fois c'est Saturne.
Exactement, donc c'est vrai que comme la Lune parcourt le ciel au fur et à mesure des semaines, elle va rencontrer régulièrement des planètes sur sa trajectoire.
Et tout ça c'est en début de soirée, donc pas besoin de se lever à pas d'heure. Non,
effectivement, c'est visible le soir. Ouais.
Phénomène assez intéressant, le 3 novembre, donc pour bientôt, Jupiter est en opposition.
Mmh, tout à fait.
Ça veut dire quoi ?
Ça veut dire qu'en fait, on a un alignement qui est qu'on a le Soleil, la Terre et Jupiter. C'est-à-dire qu'en fait, cette planète est au plus proche de la Terre, finalement. Et donc, ça veut dire qu'elle est aussi en taille, elle a un diamètre apparent qui est le plus grand possible, et donc c'est tout à fait propice à l'observation.
Elle est vraiment haute dans le ciel.
Oui, oui, exactement.
Donc, pour résumer, nous sommes le 3 novembre, nous avons le Soleil, la Lune, qui va donc passer devant la Terre, hein, puisque en pleine Lune, elle est derrière la Terre.
Oui, absolument. Ouais.
Le Soleil, la Lune, la Terre et Jupiter, grosso modo alignés.
Exactement, c'est ça, exactement ça.
Ces oppositions, c'est des phénomènes qui sont courants en astronomie.
Oui,
ou c'est
tout à fait. Alors, on parle d'opposition plutôt pour des planètes extérieures, c'est-à-dire au-delà de l'orbite de la Terre. Mercure et Vénus ne peuvent jamais être en opposition, par exemple. On parle vraiment, c'est pour les planètes supérieures. Quand, en fait, la Terre, elle tourne autour du Soleil avec une vitesse plus rapide que les planètes lointaines, évidemment. Et donc, souvent, elle rattrape, en fait, ces planètes, et puis bim, on se trouve en opposition à un moment donné lorsque la Terre est alignée avec Soleil et la planète en question.
Et ce phénomène qui fait qu'on va plus rapidement sur nos orbites que ces grandes planètes fait qu'il y a, on en parlera une prochaine fois peut-être, il y a le 4 novembre, la fin donc, du mouvement rétrograde de Saturne. Mais
évidemment.
Je propose que ça pour la prochaine fois,
oui,
parce que c'est un truc qui est quand même relativement difficile à expliquer, et puis qui a aussi mis les astronomes du Moyen-Âge et autres
en difficulté
à faire des orbites qui n'étaient pas très réalistes.
Effectivement.
Donc Jupiter et Saturne, les deux stars de novembre, Vénus.
Alors, comme on l'a vu, visible la journée, mais dans un cas assez particulier ici avec cette occultation, mais sinon pas très visible durant le mois de novembre.
Ça sera la star plus tard, Vénus, l'étoile des bergers, on en a parlé l'année passée. Mm-hmm. Au niveau des constellations, en attendant la star de l'hiver qui est la constellation d'Orion, ce H, mm-hmm. Il y a une constellation qui est vraiment bien visible et qu'on peut vraiment bien observer. C'est aussi une lettre de l'alphabet,
oui,
le W.
De Cassiopée.
Intéressante à voir.
Oui, alors très visible, hein, ce fameux W, il sera, cette constellation se trouve quasiment au zénith durant le mois de novembre, donc tout à fait propice à l'observation, avec des jumelles, c'est magnifique.
Donc vous pouvez vous coucher dans l'herbe, ou alors pour ne pas faire de torticolis, regarder la tête donc, en dessus de vous, et vous avez le W.
Exactement.
Qui n'est pas forcément, donc le W, qui n'est pas forcément, comment dire ça,
qui n'est pas forcément dans le bon sens.
Dans le bon sens, la bonne direction.
Ça peut être un M, vu de suivant que vous mettez les pieds au nord ou au sud ou à l'est ou à l'ouest.
D'accord, donc en fait, Orion, c'est le H, et puis Cassiopée, le W, ça permet en fait des fois, peut-être avec les enfants, de repérer ça et puis de dire, voilà, ça c'est une constellation. aussi, le novembre, bah, c'est chaque fois le rendez-vous des Léonides avec cette fameuse, ce fameux rendez-vous avec les débris de la comète dite de Temple-Tuttle. Alors, Temple-Tuttle, pourquoi on a toujours des noms un peu bizarres, Temple-Tuttle?
Mais en fait, Temple, c'est toujours, il y a toujours deux noms quasiment dans.
Et pourquoi il y a toujours
Il n'y a pas toujours deux noms, hein.
Mais Shoemaker-Levy, enfin, pourquoi il y a toujours deux noms?
Parce que souvent, c'est des objets qui ont été découverts par il y a plusieurs personnes qui sont en train, qui observent le ciel pour trouver des comètes. Et donc, à un moment donné, on ne sait pas exactement lequel a vu le premier, quoi. Donc, on a donné le nom des deux premiers découvreurs, les deux premiers qui observent. Alors actuellement, à l'époque moderne, c'est plus facile à déterminer cela parce que les observateurs qui essayent de découvrir des comètes ou des astéroïdes, en fait, ils ont un système et puis ils rentrent tout de suite leur nom avec un objet en donnant les coordonnées. Et puis il y a d'autres personnes dans le monde qui vont essayer d'observer aussi cette nouvelle comète. Puis d'autres qui mettent un objet qui n'a pas été encore découvert. Donc c'est plus facile de savoir qui a la
découverte.
Voilà, exactement.
Ouais, parce que Temple-Tuttle met des noms pareils.
Ouais, alors c'est deux
découvreurs. Ils le font en 1865, il n'y a pas de système informatique.
Non, effectivement. Donc on sait que historiquement, ils ont découvert un objet, puis il semblerait que ça soit le même objet là, en question, et donc pour pas les départager. Sans être vraiment sûr, ben on a mis les deux noms.
C'est donc Léonides.
Oui.
Pourquoi ce nom ?
Les Léonides, parce que la Terre, quand elle se déplace sur son orbite, eh bien, au moment du passage de la Terre, justement, dans le nuage qui crée les étoiles filantes, ben elle est en direction, elle se déplace en direction de la constellation du Lion. Et donc, on aura l'impression que les étoiles filantes, hein, les objets qui pénètrent dans l'atmosphère, les petites poussières qui pénètrent dans l'atmosphère, vont sembler venir de cette constellation-là, comme l'hiver quand il neige, par exemple, et que vous roulez avec une voiture avec les phares, vous avez l'impression que tous les flocons viennent depuis droit en face de vous, en fait.
En fait, on dit la Terre va traverser une queue de comète, mais ça consiste en quoi ? C'est dense, c'est des gros cailloux, c'est comment ?
Non, alors c'est souvent des toutes petites poussières de moins d'un millimètre qui se trouvent là, en fait, sur l'orbite de la comète. Et puis la Terre, chaque année, elle va traverser cette zone. Mais ce n'est pas une zone qui est très homogène. Hein. C'est une zone où la comète, elle est déjà passée plein de fois. Cette comète, elle a 33 ans de périodicité. Donc tous les 33 ans, elle passe à peu près au même endroit. Et quand la Terre, elle arrive, bah, elle peut tout d'un coup passer un endroit très dense ou à un endroit peu dense, on ne sait pas trop. Et l'année passée, on se rappelle qu'on avait prédit hein, des Léonides fantastiques avec beaucoup de densité, beaucoup d'étoiles filantes par minute. Et puis finalement, c'était assez décevant. Voilà, ben on peut. C'est pas une science très exacte, la détermination de la densité des étoiles filantes par le passage de la Terre dans des nuages de poussière.
Ça peut poser problème au niveau de. J'ai lu qu'au niveau des satellites, ça pouvait éventuellement poser problème.
Ouais, alors effectivement, vu qu'il y a tout d'un coup une plus grande densité de poussière, on sait que les poussières, ça peut abîmer des satellites, ça peut endommager des panneaux solaires, ce genre de choses.
Il y a une science, la météo astronomique, ou je sais pas comment on pourrait.
Oui, alors il y a une météo, mais c'est pas par rapport aux étoiles filantes ou ces particules de poussière, c'est plutôt par rapport à l'activité solaire. Tout d'un coup, il peut y avoir des tempêtes solaires qui peuvent alors drastiquement endommager des satellites. On a une météo du soleil justement pour se prémunir de ce genre d'événements. On envoie aussi les habitants de la Station Spatiale Internationale dans un endroit un petit peu plus safe dans la station, un endroit où les parois de la station sont plus épais pour éviter qu'ils soient également soumis à des particules qui peuvent être dangereuses.
Donc c'était les étoiles filantes des Léonides en novembre. N'oubliez pas de faire un vœu, même si vous ne voyez pas d'étoiles filantes, entre le 15 et le 21 novembre. Voilà pour le ciel de novembre. On se retrouve le mois prochain pour le ciel de décembre.
Avec grand plaisir.
On parlera peut-être ou peut-être pas de l'étoile du berger.
On verra, exactement.
Merci beaucoup Stéphane.
Merci Victor, bonne journée.
Bonne journée, au revoir.